demeurer dans cette attitude de recueillement alors que nous nous apprêtons à recevoir la parole du Seigneur. Quel bonheur, quelle grâce pour nous d'invoquer le nom le plus extraordinaire, le plus glorieux, le nom qui est élevé, souverainement élevé, puissamment élevé, au-dessus de tout autre nom, à savoir le nom de Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Nous inclinons nos têtes et nous demandons au Seigneur de préparer nos cœurs à recevoir sa parole. Nous inclinons nos têtes et nous implorons sa grâce afin qu'il nous aide à rester ouverts à l'action de son esprit au travers de sa parole, que cette parole puisse avoir un impact sûr, évident, puissant, sur chacun de nous. Mais en même temps, prions pour que le Seigneur utilise son serviteur de manière puissante, de manière efficace, afin que tout ce qui sortira de sa bouche puisse exprimer sa pensée. Nous voici une fois de plus, Seigneur, devant toi, cette fois-ci pour implorer ta grâce sur chacun de nous, alors que nous nous apprêtons à te tendre une oreille attentive et à recevoir ta parole. Merci pour ce privilège, Seigneur, de nous tenir devant toi, ô Dieu, et de t'exposer nos cœurs, afin que par ta parole, tu puisses, Seigneur, le modeler, le façonner, afin que par sa parole, tu puisses, Seigneur, débarrasser nos consciences de tout ce qui n'est pas ta gloire. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort de ta bouche. Ce matin, nous voulons, ô Dieu, que ta parole soit, Seigneur, une parole puissante, une parole non seulement qui exprime ta volonté générale, Seigneur, pour chacun de nous ici présents, mais aussi pour tous ceux qui sont en communion avec nous via différents réseaux sociaux et médias classiques, mais que ta parole puisse se révéler également comme une parole personnelle, une parole particulière, un rhéma pour chacun de nous, rhéma appelé à générer, Seigneur, la foi dont nous avons besoin pour déplacer les montagnes. Car lorsque ton rhéma, Seigneur, surgit en nous, lorsque nous accrochons à cette parole particulière que tu nous donnes, alors cette parole suscite en nous la foi qui rend possible tout ce qui nous paraît impossible. Alors parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, acclamons la parole du Seigneur. Voilà. Comme vous vous êtes rendu compte, à travers ma prière, il va donc être question une fois de plus de ces deux concepts, de ces deux mots, de ces deux termes que la parole de Dieu utilise pour exprimer la réalité de la révélation du Dieu d'Israël, du Dieu de la Bible à l'humanité et en particulier à son peuple, c'est-à-dire à tous ceux qui font partie du corps du Christ, à tous ceux qui un jour l'ont rencontré d'une manière ou d'une autre. Si ma mémoire est bonne, ça va être le quatrième épisode, n'est-ce pas? Voilà, c'est donc le quatrième épisode, comme quelqu'un m'a rappelé en Europe, en disant, « Pasteur, nous attendons le quatrième épisode. » Moi, j'avais déjà complètement oublié. Quatrième épisode, je bénis Dieu de ce que beaucoup d'hommes et de femmes, à travers ces messages, ont compris la différence qu'il y a entre le Logos d'un côté et le rhéma de l'autre côté. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, le Logos et le rhéma. Comme je vous avais promis, nous allons passer à l'étape pratique, c'est-à-dire nous allons voir l'application concrète du rhéma, parce que c'est l'aspect de la parole qui nous intéresse. Comment certains acteurs, certains héros de la parole de Dieu, certains hommes où certaines femmes ont pu expérimenter la puissance du réma, ont pu à un certain moment de leur vie entendre la voix du Seigneur, et puis ensuite réagir positivement et expérimenter des miracles. Nous allons faire une première lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 1er. Nous allons lire une histoire dont on a l'habitude de lire en fin d'année, c'est-à-dire lors de la fête de Noël. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Et puis ensuite, nous irons dans Matthieu, chapitre 1er, versets 22 à 23. Commençons d'abord par Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Quand on parle du sixième mois, il s'agit du sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. La femme de Zacharie, vous pouvez lire le verset précédent et là vous allez bien comprendre. Verset 28, l'ange Gabriel entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé un fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car, ajoute l'ange Gabriel, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna. Enfin, Matthieu, chapitre 1er, versets 22 à 23, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, donc par le prophète Esaïe, « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Amen. Gloire à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Eh bien, je vous invite à poursuivre avec moi notre pèlerinage à travers le Nouveau Testament, dans le but de comprendre, mes amis, le sens de deux termes que le Nouveau Testament utilise pour exprimer la réalité de la parole, pour exprimer le concept même de la parole de Dieu. Ces deux termes sont, nous l'avons vu, le logos et le rhéma. Il est donc important qu'une fois de plus nous puissions nous attarder sur cette notion du rhéma, cette notion de la parole particulière, d'une parole que le Seigneur adresse à quelqu'un de manière tout à fait personnelle, puisque nous l'avons vu il y a quelques semaines, plusieurs semaines d'ici, parmi les armes que le Seigneur a mises à notre disposition, dans cet arsenal divin que le Seigneur met à notre disposition, il y a deux armes principales dont nous devons nous servir si nous voulons, frères et sœurs, demeurer dans la victoire et aller de gloire en gloire. Ces deux armes sont, premièrement, la parole de Dieu qui nous est révélée comme étant l'épée, le glaive de l'Esprit, et ensuite la prière par le Saint-Esprit et avec toutes sortes de prières et tout cela et de supplications et tout cela, eh bien, avec persévérance. Donc la parole est un glaive, est une épée, mais l'épée de l'Esprit. Et comme nous l'avons vu ici dans Éphésiens 6, verset 17, eh bien, il est dit la parole de Dieu, c'est-à-dire le rhéma de Dieu et l'épée de l'Esprit. D'où l'importance de prendre du temps pour essayer de comprendre ce que la Bible a à nous révéler en ce qui concerne l'emploi à la fois du Logos et du rhéma. Je voudrais revenir un tout petit peu pour permettre à certains d'entre nous de mieux comprendre, car il y a eu quelques questions de la part de certaines personnes qui n'avaient pas très bien compris, et j'aimerais vous encourager, tous nos messages sont enregistrés et vous pourrez vous les procurer sous forme de disquettes. Voilà, ici, derrière. Donc, vous pouvez acheter, vous avez suffisamment d'argent pour vous acheter des unités, etc. Vous pouvez à un moment serrer la ceinture pour vous prendre un DVD et puis aller réécouter afin de mieux comprendre ce qui a été dit. Car je suis tout à fait d'accord avec certaines personnes qu'il faut peut-être écouter un message deux ou trois fois pour finalement en comprendre la teneur, en comprendre le sens. Nous avons vu nous avons parlé de quelques vérités en rapport avec ces deux termes. Ces deux termes, une fois de plus, que la Bible utilise pour exprimer la réalité de la parole. Il y a d'abord le logos, très rapidement. Le logos a un sens plus général de la révélation de Dieu à l'humanité. Le logos, quand nous parlons du logos, nous parlons de toute l'Écriture sainte, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. C'est donc la Bible dans son ensemble, ce qui est écrit, Bible qui nous sert de guide sur le plan spirituel et sur le plan moral. C'est donc, si vous voulez, un terme qui est utilisé pour parler de la connaissance qui nous révèle la volonté générale de Dieu. En d'autres mots, le Logos nous communique la connaissance du Dieu de la Bible, qui il est. Il est le Créateur. Si vous lisez à travers toute la Bible, vous verrez qu'il se révèle comme le Créateur de l'univers, le Créateur de l'homme, comme celui qui l'a fait à son image et à sa ressemblance. Si vous lisez la Bible, eh bien le Logos nous révèle que le Dieu de la Bible est celui qui tient le monde entier, l'univers tout entier dans sa main. Il est le seul Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu. En dehors de lui, eh bien, tout n'est qu'idole, tout n'est que folie. Toutes ces vérités, nous les trouvons dans la Bible. Et elles nous révèlent, mes amis, de manière générale, qui est notre Dieu, qui est ce Dieu qui nous a fait, qui nous a créés. Non seulement le Logos nous donne cette connaissance générale concernant la personne du Dieu de la Bible, la personne de ce Dieu qui s'est révélé un jour à Enoch, qui a marché avec lui et qui, après, a recueilli Enoch auprès de lui, l'a enlevé. La connaissance de ce Dieu qui un jour s'est révélé à Abraham et l'a appelé à se lancer dans un voyage qui le conduira jusque dans la terre promise. Eh bien, le Logos nous donne également la connaissance de Dieu concernant sa volonté générale. J'insiste beaucoup sur le terme général, sa volonté générale pour tous ses enfants, quels qu'ils soient. Quelle est cette volonté générale? Eh bien d'abord, c'est de mettre en pratique ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout. Vous pouvez répondre si vous connaissez ce passage. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Eh bien ce passage concerne tous les croyants. Personne ne peut se soustraire à cette déclaration. Donc, Ça exprime la volonté générale de Dieu pour son peuple que nous sommes. Alléluia. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons l'aimer de toute notre âme. Mais également, aimer notre prochain. Nous aimer les uns les autres. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Eh bien, cette recommandation, cette parole ne concerne pas un individu ou trois individus ou une classe particulière dans le corps du Christ, dans l'Église de Jésus-Christ. Cette recommandation concerne tous ceux qui appartiennent à Jésus. Alléluia. C'est donc une recommandation générale. Encore une fois, le Logos nous donne la connaissance générale de la volonté générale du Seigneur. Cette volonté générale, ou la connaissance à propos de cette volonté générale, c'est par exemple marcher dans la crainte de son nom. Eh bien, c'est une recommandation adressée à chacun de nous. Personne ne peut dire, moi je ne suis pas concerné par la crainte de Dieu, non pas du tout. Nous sommes tous appelés à marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes tous appelés à nous sanctifier. La Bible nous dit, marchez dans la sanctification. Soyez saints comme le Seigneur est saint. Nous devons tous marcher dans la sainteté, posséder ce corps dans la sainteté. Nous devons tous, mes amis, être des témoins du Christ, car il nous a donné cette vocation de partager sa vie tout autour de nous. Ça, c'est la volonté générale. Alléluia. Qui nous est donc révélé par le Logos à travers toute la Bible. Ça nous concerne tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc voilà, grosso modo, très brièvement, ce que ça veut dire le Logos. Elle nous communique la connaissance de Dieu et sa volonté générale pour chacun de nous. Quand vous lisez la Bible, quand vous la méditez, eh bien, le Seigneur vous parle. Voyez-vous, il vous montre la nécessité de marcher dans la sainteté, la nécessité de l'aimer de tout votre cœur, la nécessité d'être fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes, la nécessité, eh bien, d'être un témoin du Christ dans, là où vous vivez, partout où vous êtes. Ça, c'est une connaissance que nous avons à partir de la parole telle que nous la trouvons dans les Saintes Écritures, à savoir le Logos. Amen. C'est très clair, formidable. Ensuite, il y a le deuxième terme, et c'est celui donc qui nous intéresse, puisqu'on a déjà parlé, longuement parlé du Logos. Il y a le Réma. Le Réma est une parole particulière, est une parole spécifique, est une parole circonstancielle que le Seigneur nous donne par rapport à un besoin particulier, par rapport à un besoin personnel, alléluia, dans un but particulier. Nous verrons comment le Seigneur nous communique ces rémas-là. Voyez-vous, c'est ça le réma. C'est une parole particulière, c'est une parole personnelle, voyez-vous. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, va donc choisir le moyen, la manière de nous communiquer cette parole personnelle, de susciter, d'engendrer en nous le réma dont nous avons besoin. Car, rappelez-vous, nous sommes appelés à marcher, non pas par la vue, mais par la foi, n'est-ce pas? Notre victoire par rapport au monde qui nous entoure, c'est notre foi. Mais que dit la Bible à propos de cette foi? La foi vient de l'écoute, et l'écoute à travers le réma du Christ. Gloire à Dieu. La foi vient de l'écoute. Je vous avais dit la dernière fois que ce que nous trouvons dans nos versions est déjà une explication, est déjà une traduction commentée. Il y a des versions qui disent « la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ». C'est bien. Ce n'est pas le verbe « entendre » qui est là. C'est plutôt l'écoute, un état. Oui, c'est ça l'écoute, un état où on est attentif et réceptif à la parole du Seigneur. Eh bien, la Bible nous dit, la foi dont nous avons besoin pour déplacer des montagnes, la foi dont nous avons besoin, mes amis,
pour faire face à toutes sortes de problèmes, quelle que soit leur nature, cette foi-là, eh bien, vient de l'écoute et l'écoute à travers le rhéma du Christ. D'où la nécessité, mes amis, d'avoir une communion intense, intime avec le Seigneur pour pouvoir développer le discernement qui nous permettra, mes amis, de savoir que là, c'est Dieu qui me parle. Et s'il me parle, je dois obéir. Qu'est-ce qui vient d'arriver là, qui peut avoir une allure banale, est en soi un message prophétique de ce que je dois faire. Alléluia. Vous savez, avec le recul, par rapport à ma propre vie, j'ai vu comment le Seigneur a parlé, mais sur le champ, je ne pouvais pas le discerner. Mais avec le recul, eh bien, j'ai vu le champ se réaliser, et je me suis dit, Seigneur, tu es vraiment Dieu. Tu as conduit les circonstances, tu as préparé les circonstances pour finalement un jour me permettre d'entrer dans ta bénédiction, dans ma destinée. Tu m'as parlé d'une manière ou d'une autre sans que je le sache. Et pourtant Dieu avait parlé. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Quand la Bible nous demande d'être attentifs, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en prière. Attends Seigneur, je suis là, je te tends une oreille, etc. Hop, c'est fini. Gloire à Dieu. Et puis hop, on va à gauche, à droite, on est distrait, et on baigne déjà dans un climat de pollution sonore, et on n'a pas le temps de réfléchir. C'est ça le drame aujourd'hui. On est tout le temps sur le smartphone, etc. J'étais quelque part, j'étais assis, et je ne sais pas où j'étais, calmement, et puis je vois des gens entrer, je ne sais pas où, je ne me souviens plus très bien, s'asseoir les filles, les garçons, les hommes, les femmes et tout ça, et tout de suite chacun sur son smartphone. J'ai fait le tour, enfin, avec mes yeux, hein. Chacun était absorbé. Voilà. Vous verrez que pour certains, c'est le réflexe. Dès qu'on arrive quelque part, on s'assied, bon, tout de suite. Dans un contexte pareil, il est très difficile d'être attentif à la voix de Dieu et de se dire, est-ce que ceci est le hasard ou pas? Ou ce Dieu qui m'envoie un signal? Je me souviens, puisque je ne peux mieux parler que de moi-même, nous sommes en 91, en 91, au lendemain de premier pillage que le Kinshasa avait connu. C'était au mois de septembre. Qui s'en souvient? Ça a été une catastrophe pour notre ville. J'avais suivi une fois le rapport de la FEC que depuis, eh bien, la ville a difficile à se relever. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient été pillées, qui n'ont plus rouvert les portes. Et ça nous avait fait reculer sur le plan économique de manière incroyable. Enfin, alors, avec tout ce qu'il y avait eu, des tensions politiques, etc., la crise économique, les chancelleries occidentales avaient demandé à leurs citoyens d'être rapatriés, de partir. Les Belges, les Français, les Américains, les Canadiens, mais aussi les Suisses. Il se trouve que notre pasteur est en Suisse, eh bien, avait reçu aussi cette invitation à partir. Je me souviens encore, comme si c'était hier, du haut de la chair, il nous a dit, nous ne marchons pas selon les dictates ou selon les résolutions de nos chancelleries, mais nous marchons par la foi. Il est resté, mais la pression a continué. À un certain moment, il ne pouvait rien faire. Il s'est plié aux exigences de son ambassade. Finalement, lui et son épouse ont été évacués, je crois qu'ils avaient traversé Brazzaville, pour partir. À cette époque, c'était le pasteur Marcel Bomboko, que je salue s'il me suit par ailleurs, qui assistait le pasteur et nous étions là, aussi autour de notre bien-aimé Marcel. Et bien tout de suite, le pasteur Marcel et nous autres, nous avions pris la décision, tous les responsables, tous ceux qui avaient une certaine responsabilité, d'organiser
une semaine de prière ici.
Toute la semaine.
Donc, lundi, mardi, on a fait un programme. Pour chaque jour, il y avait un qui dirigeait, l'autre prêchait. Et puis le dimanche, il fallait trouver celui qui allait prêcher le premier dimanche après le départ du pasteur. Donc, il est parti, il y a un vide. Qui allait prêcher? Nous sommes retrouvés. J'étais là, tout le monde était là. On a commencé à penser, ah, tel, ah, tel, ah, tel. On a d'abord pensé à une personne, et puis l'autre personne. Et puis, le frère Marcel Bomboré dit non. Le frère Bondo va prêcher. Le pasteur est parti. Il dit, ok, je vais prêcher. Et le dimanche, le premier dimanche après le départ du pasteur, c'est moi qui avais prêché ici, j'avais pris la parole. Qui pouvait s'imaginer que ce choix était aussi un message prophétique? Il partait. Moi, je prêchais ce dimanche-là, et puis par après, moi aussi, je suis parti. Et puis, bon, le programme a continué pendant plusieurs dimanches, jusqu'à ce que le pasteur revienne. Ça pouvait paraître banal, mais aux yeux de Dieu, ça avait une signification prophétique. Pour le moment, il est parti, il va revenir. Mais il viendra un moment où il partira pour ne plus revenir. Alors lui prêchera derrière la chair et entrera dans son manteau. Vous voyez, mes amis? Quelque chose qui pouvait passer inaperçu, mais ni moi, ni personne dans ce comité-là ne pouvait s'imaginer que ce choix-là, quelque part, avait une portée prophétique. Voyez-vous, nous sommes en 91 et en 2011, l'homme de Dieu s'en est allé. 20 ans plus tard, c'est ça, hein? 20 ans plus tard, qui pouvait s'imaginer? Seul Dieu peut le faire. Voyez? Seul Dieu. Le Réma, parole personnelle de Dieu, à un certain moment de notre vie. Alors soyons, mes amis, des hommes et des femmes qui restent très attentifs. Il y a des événements quelquefois qui nous surprennent, que nous ne contrôlons pas, et tout d'un coup, il y a quelque chose. Oh, ayons l'intelligence de l'esprit pour lire et comprendre la volonté de Dieu derrière certaines circonstances. Nous le verrons. Le Réma donc nous communique la connaissance de la volonté particulière de Dieu pour chacun de nous. Autant le Logos nous communique la connaissance de la volonté générale de Dieu pour chacun de nous, autant le Réma nous communique la connaissance de la volonté personnelle, de la volonté particulière pour chacun de nous. Rappelez-vous, Éphésiens 2:10 dit ceci, car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, des œuvres glorieuses, des œuvres magnifiques que Dieu a préparées d'avance pour que, ou afin que nous le pratiquions, ou littéralement, afin que nous y marchions. Eh bien, pour pouvoir marcher dans les œuvres que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous, pas de manière générale. Vous comprenez? Les œuvres que lui a préparées d'avance, ça peut être un appel. Écoutez ce qu'il nous dit dans Éphésiens 4. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être docteurs, d'être évangélistes, d'être pasteurs. Il a donné aux uns. Donc à ceux-là, eh bien c'est un appel personnel. C'est un appel particulier. Donc, il y a des œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que tu les accomplisses, mon frère et ma sœur. Et pour cela, tu as besoin d'être réceptif à la parole personnelle, particulière de Dieu. En d'autres mots, tu as besoin de marcher selon le réma, car c'est la foi suscitée par le réma en toi qui va te conduire, mes amis, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce sont des œuvres glorieuses, des œuvres de victoire, des œuvres de succès. Et quand tu marches selon le réma, croyez-moi, frères et sœurs, quand vous marchez, rien ne pourra vous arrêter. Car le réma de Dieu puissant, c'est la voix de Dieu qui arrive à susciter en nous une conviction forte. Et quand nous nous levons pour marcher selon cette conviction, croyez-moi, peu importe le nombre d'ennemis devant nous, peu importe la montagne qui se dresse devant nous, lorsque nous allons vers cette montagne, nous finirons par la déplacer, car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais bien par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans ces œuvres-là à partir du réma. Gloire à Dieu. Le réma. Donc, en résumé, avant de venir à notre texte, en résumé, nous pouvons dire qu'il y a deux plans d'écoute pour accomplir la volonté de Dieu. Deux plans. Le premier plan, c'est quoi? Eh bien, ce sont les directives générales telles que nous les trouvons dans toute la Bible. Voilà, nous marchons selon ce que la Bible demande. Sanctifiez-vous. Eh bien, nous nous sanctifions en nous éloignant du mal. Ne mentez pas. Eh bien, nous faisons tout pour dire la vérité. N'est-ce pas? Marchez dans la crainte de Dieu. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Ça, ce sont des directives générales qui nous maintiennent dans le plan de Dieu. Maintenant, alors que nous marchons selon les directives générales, le deuxième plan d'écoute, c'est le plan concernant les directives spécifiques. À un certain moment, pendant que nous marchons d'après les directives générales, eh bien, à un moment, hop, il nous parle. Parce que nous sommes dans un besoin. Il nous dit, tourne à droite. J'ai dit, mais à droite? Moi, je partais comme ça, pour moi, c'est là que je dois prospérer, etc. Lui me demande de tourner à droite. Eh bien, obéis seulement. Voilà les directives spécifiques, les directives particulières. Et les deux plans d'écoute sont indispensables. Ce sont ces deux plans qui vont nous maintenir dans la volonté de Dieu, qui vont nous permettre de demeurer dans le champ de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints, oui ou non? Eh bien, ça, c'est une directive générale qui concerne tout le monde. Et si tu te sanctifies, si tu marches dans la sainteté, eh bien, tu demeureras dans sa volonté. Et puis, il y a les directives personnelles, les directives spécifiques, mes amis. Eh bien, elles concernent chacun de nous, pas seulement ceux qui sont en plein dans le ministère. C'est pourquoi vous qui aspirez à servir le Seigneur, ne marchez pas par la vue. Tout le monde veut s'installer à Kinshasa, ouvrir une église, au point où il y en a de trop. Je ne vois pas comment Dieu aimerait plus les Kinois que les gens de Bandundu. Que Dieu nous aide, que nous allions là où il nous envoie. Mais aujourd'hui, ce sont les yeux. Oui, je vais à Kinshasa parce que dès que j'ouvre et que je dis extension de la borne, les gens viendraient tout de suite. Allez faire vos preuves ailleurs. S'il faut un jour que vous reveniez à Kinshasa, c'est lui qui va vous faire revenir. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer que je reviendrais, ça je vous l'ai dit. Oui, je suis parti pour une formation. On s'était dit avec mon épouse, partons tout de suite et revenons parce qu'il y a un grand travail. Et même le pasteur m'avait dit, mon frère, vous partez, mais n'oubliez pas qu'il y a du travail ici. Nous sommes partis. 5 ans, 10 ans. 15 ans, pour nous, notre vie était toute faite, toute tracée. 20 ans, on s'est dit, c'est fini. Je suis revenu de temps à autre ici, je m'aime prêcher ici, sans plus. Mais lui savait. Lorsque le moment est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Je n'ai fait aucun effort, je n'ai pas fait un travail de lobbying.
Je ne suis pas allé trouver Papa Timothée.
Nous nous connaissons depuis. Essaye un peu de mettre la pression auprès du pasteur. Ça ne sert à rien. Essayer de faire ça, ce n'est pas. Cela montre qu'on n'est pas sûr de la direction de Dieu. Lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on se laisse conduire. Laissez-vous porter par la parole de Dieu. Marchez selon le rhéma. Dieu a tracé une direction. Dieu a prévu une route, mon frère et ma sœur. N'essaye pas d'aller rejoindre les autres sur leur route, parce que là, ils ont beaucoup d'argent ou de fruits et tout ça, et que la route, apparemment là où Dieu t'appelle, est une route déserte. Il n'y a rien. Peu importe. Quand Dieu est avec toi, cette route déserte finira par devenir une route, mes amis, remplie de bénédictions. Voilà comment nous devons marcher. Alors comment Dieu nous donne-t-il le rhéma? Voilà une question fondamentale, n'est-ce pas? Eh oui, comment? Comment nous communique-t-il cette parole particulière? Cette parole qui va finir par susciter le rhéma en nous. Premièrement, nous l'avons vu très brièvement la fois dernière, Dieu peut nous parler par la nature. Eh oui, mes amis. Tout d'un coup, il y a un vent qui se met à souffler. Pendant que vous étiez en prière, vous étiez en communion intense avec Dieu, et puis tout d'un coup, il y a comme les yeux qui s'ouvrent. Et le Saint-Esprit qui te dit, comme tu viens de voir le vent qui est en train de souffler, au point même de soulever la toiture de ton bureau, eh bien, je veux souffler ainsi, je vais répandre mon esprit bientôt. Et là, vous comprenez. Alors, Seigneur, dans ces cas, que dois-je faire pour que cette parole s'accomplisse? N'est-ce pas? Voilà comment, par la nature. Élie sur le mont Carmel, après 3 années de sécheresse, c'était la famine partout, la mort partout. Dieu lui dit, je vais faire pleuvoir. Élie se retrouve sur le mont Carmel, il intercède pour que Dieu accomplisse sa parole, alléluia. Il prie à plusieurs reprises. À la 7e fois, il fait remonter, il demande à son serviteur de monter, puisqu'il était au sommet. Il dit, regarde un peu du côté de la mer, et que vois-tu? Ah, parce que les 6 premières fois, il n'avait rien vu. Il monte, il n'y a rien. L'homme de Dieu continue à intercéder. Il avait une conviction que Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu avait dit qu'il allait faire pleuvoir. Eh bien, il était sûr. Il a prié jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir. 2e fois, oh, il n'y a toujours rien. Peut-être qu'à la 5e fois, son jeune serviteur s'est dit, mais ce n'est pas possible, ce vieux, hein, moi je ne le comprends pas. Il n'y a rien. La météo n'a rien annoncé qu'il va pleuvoir. D'ailleurs, on voit tout est sec. Le ciel est dégagé, il n'y a aucun nuage. Ça fait la 6e fois qu'il me demande de monter, il me dit, que vois-tu? Ben, je ne vois rien. Mais la 7e fois, comme agacé, il monte. Que vois-tu? Il regarde, enfin, toujours la même chose. Ah, tiens, ah, il y a un petit nuage. De la grandeur de la paume d'une main. Il descend. L'homme de Dieu lui demande, que vois-tu? Il dit, je vois un petit nuage. Il comprend le langage divin. Il comprend que Dieu a parlé. Il n'attend pas qu'il y ait du vent. Il n'attend pas qu'il y ait un grand nuage. À partir du peu là, le rhéma a suscité une conviction. Il dit à son serviteur, va trouver le roi Achab. Va lui dire de descendre, d'atteler ses chevaux. Car s'il traîne, la pluie va le surprendre. Quand il dit ça, eh bien c'est encore un petit nuage. Et puis petit à petit, le petit nuage a commencé à grandir, à grossir. Et puis tout d'un coup, le vent commençait à souffler. Mes amis, Dieu est capable d'honorer sa parole. Alléluia. Et la pluie est tombée. Il a reçu le rhéma. Cette assurance, cette conviction à partir de la nature. Deuxièmement, Dieu peut nous parler à travers des circonstances. Eh oui. Soyons, mes amis, attentifs. Voyons la manière dont les circonstances se présentent devant nous. Ne soyons pas distraits. N'essayons pas d'aller chercher les hommes afin qu'ils nous aident. Ne cherchons pas le piston d'un homme. Laissons Dieu conduire toutes choses, car il a son temps. Et son temps est toujours le meilleur. Et au travers d'une circonstance, bonne ou mauvaise, peu importe, Dieu ne regarde pas ça. Quand il a décidé d'agir, personne ne peut s'y opposer. J'agirai, nous dit-il dans Ésaïe. Qui s'y opposera? Il peut nous parler à travers les autres. C'est pourquoi la Bible nous pousse à avoir des bons rapports, d'être en communion fraternelle. Quand nous marchons tous, Seigneur, mes amis, dans la crainte de Dieu, dans l'amour du Seigneur, dans la sainteté, eh bien nos cœurs sont entre les mains du Seigneur. Il peut nous parler par les autres, par une exhortation, par une parole qui sort de la bouche d'un frère ou d'une sœur, comme ça, et puis tout d'un coup, cette parole trouve quelque chose dans ton cœur. Tu t'es dit, mais il n'était pas au courant de mon problème. Et pourtant, il a dit ça. Donc, par les autres. Voyez-vous? Par la manifestation des dons spirituels. Et oui, il peut nous communiquer. Lors des manifestations des dons spirituels, comme la parole des connaissances. Une parole de connaissance sort. Ce n'est pas simplement une parole informative. C'est une parole appelée à susciter le rhéma dans le cœur de la personne concernée. Voici, ainsi parle ton Dieu. Lève-toi et va. Et tout d'un coup, cette parole commence à secouer ta conscience. Ça, c'est le Saint-Esprit qui commence à travailler le cœur. Eh bien, agis. Oh, alléluia. Par la prophétie, une prophétie qui sort, qui suscite en nous, la vraie prophétie. Pas les prophéties que les gens vont acheter à gauche, à droite. Non, mes amis. Non. Les fausses prophéties vont détruire la foi. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se trouvent dans des situations très difficiles. Parce qu'ils ont fait foi à des prophéties concernant le mariage. Dieu a dit que c'est elle la femme de ta vie. Et puis l'autre a dit, ah oui, oh, gloire à Dieu, Dieu a parlé. Et puis on va se marier, 5 ans plus tard, c'est fini. On se dit, oh là là, quelle catastrophe. Mais oui, tu t'es basé sur ce qu'un homme a dit. Et tu n'avais pas la preuve que c'était Dieu qui avait parlé. Le diable connaît, mes amis, les désirs qu'il y a dans nos cœurs. Vous savez ça? Il peut inspirer une fausse prophétie à quelqu'un. Ça existe. Ça peut être à travers la prédication comme je prêche. Et puis tout d'un coup, au travers de cette prédication, il y a une pensée de Dieu qui s'installe en vous et qui finit par générer le rhéma dont tu as besoin. Ça peut être par le songe, voyez-vous, par une vision. Maintenant, il n'est pas dit que tout le rêve que vous faites, c'est Dieu qui vous parle. Attention, hein. Là aussi, vous avez besoin de discernement. Voyez-vous, il y a des rêves qui sont vrais. Et puis par une vision. Mais dans la plupart du temps, c'est par la parole écrite, à savoir la Bible, que Dieu nous communique le rhéma. Les mêmes passages qui, à un certain moment, commencent à vibrer dans nos cœurs. Voyez-vous, ces passages qui n'étaient que lettres, à un moment devient esprit et vie. Et suscite en nous le rhéma. Et enfin, il peut nous le communiquer par tout autre moyen surnaturel qu'il juge bon d'utiliser dans sa sagesse, dans sa souveraineté, comme par exemple un ange. Et c'est le cas de l'histoire que nous avons lue très rapidement, l'histoire de Marie. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Il a eu à utiliser des prophètes qui sont allés voir les rois dans l'histoire d'Israël pour leur dire ceci ou cela de la part de Dieu. Il a eu à utiliser des anges, que ce soit dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, et c'est le cas de cette jeune fille, de cette vierge appelée Marie. Élisabeth, sa parente, la femme de Zacharie, est à son sixième mois de grossesse. Et c'est justement à ce moment-là que l'ange Gabriel, qui d'abord avait visité Zacharie dans le temple de Jérusalem et avait dit à Zacharie que Dieu avait entendu sa prière et que sa femme allait avoir un enfant et qu'il allait donner à cet enfant le nom de Jean, Yohanan, qui veut dire « Yahweh fait grâce ». Et quelque temps plus tard, Élisabeth est tombée enceinte, malgré son âge. Six mois plus tard, le même ange, cette fois-ci, remonte vers le nord. Il va en Galilée, dans une ville du nom de Nazareth. Et là, auprès, il va trouver une jeune fille, qui craignait le Seigneur, une fille chaste, qui attendait le jour du mariage, enfin, d'aller avec son mari, à savoir Joseph. L'ange arrive, dit à Marie, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » C'est donc une grâce. L'ange ne dit pas à Marie, « Oh là là, de toutes les filles de la terre, tu es celle qui a une moralité au-dessus de toutes. » L'ange lui dit, « Tu as trouvé grâce. » Avec Dieu, tout n'est que grâce, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être au bénéfice de Dieu par sa grâce. Je te salue, littéralement. Vous savez, en hébreu, on dit shalom, paix, prospérité. C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Je te souhaite prospérité, shalom, la paix, etc. Chez les Grecs, c'est différent. Chez les Grecs, à l'époque, ils se saluaient haïre, c'est-à-dire réjouis-toi, sois joyeux. C'est ce que l'ange lui dit. Si nous traduisons ça littéralement, il lui dit, réjouis-toi, sois heureuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Marie est troublée par ces mots. La jeune fille ne comprend rien. Elle se demande ce que signifie une telle salutation. Et puis l'ange poursuit en disant, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » L'ange parle avec assurance. L'ange parle de manière affirmative. C'est clair, tu seras enceinte. C'est un fait, hein? L'ange ne t'attend pas. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, nous avons lu tout cela. Et là où ça devient intéressant, là où ça nous permet de comprendre la notion de Réma, c'est lorsque Marie réagit. Il dit, mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Tu me dis que je serai enceinte. Tu me dis que j'enfanterai un fils à qui je donnerai le nom de Jésus. Mais moi, je suis encore vierge. Certes, je suis fiancée à Joseph, mais nous attendons le mariage pour aller vivre ensemble. Comment cela se produira, mon frère? Si Dieu t'a parlé, ne te pose pas des questions quant à la manière dont la promesse s'accomplira. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. L'ange lui répond, 1. Le Saint-Esprit viendra sur toi. 2. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et résultat, le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et puis l'ange la rassure en disant, ta propre tante, ta propre parente Élisabeth, qui jusque-là était appelée stérile. Hier, quand je méditais là-dessus, il y a un détail qui m'a fait beaucoup de bien. Là, je ne dis pas, et Élisabeth, ta parente, qui était stérile. Non. Là, je dis, celle qui était appelée stérile. Pour Dieu, elle n'était pas stérile. Dieu attendait simplement le temps pour accomplir sa parole. C'est tout. Celle qui était stérile, eh bien, sache, Marie, qu'elle est dans son sixième mois. Eh bien, l'ange poursuit en disant, « Car rien n'est impossible à Dieu. » C'est là que la traduction littérale va nous aider. Écoutez ce que l'ange dit. « Car aucun rhéma de la part de Dieu ne sera impuissant. » Aucun rhéma, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut rester sans effet. Moi, je t'apporte ce rhéma. Ce rhéma vient de la part de celui qui est tout puissant. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Marie réagit. Qu'est-ce qu'elle dit? Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ton rhéma. Qu'il me soit fait selon... Le rhéma est saisi. Marie, tout d'un coup, accueille la vie divine. Dieu est capable de tout. Mais cette parole, nous l'avons lue, avait été proclamée plusieurs siècles auparavant par le prophète Ésaïe. Il avait dit ceci, Dieu avait dit, la jeune fille, voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on l'appellera qui? Emmanuel. Nous sommes plusieurs siècles auparavant. Tous les Israélites, tous les Juifs ont lu ce passage. Ce passage fait partie du Logos de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y a eu dans toute l'histoire d'Israël des jeunes filles vierges, parce que c'était une valeur. On ne pouvait pas tripoter avec un homme tant qu'on n'était pas marié. Eh bien, des jeunes filles dans l'histoire d'Israël ont entendu la lecture de ces passages. Les rabbins ont lu, des femmes ont entendu à travers les âges. Ça faisait partie de leur méditation. Ils savaient qu'un jour, une vierge accueillerait la vie de Dieu, enfanterait celui que la Bible nous révèle comme étant Emmanuel, c'est-à-dire le Messie. C'était une parole inscrite dans l'Ancien Testament, dans le Logos, jusqu'à ce que cette parole, à un moment, se tourne vers une fille qui n'habitait pas Jérusalem, qui n'habitait pas Bethléem, qui ne vivait pas en Judée, mais qui vivait en Galilée, dans une petite ville appelée Nazareth. Cette jeune fille, eh bien, s'appelant Marie, ce qui était Logos, que les gens ont lu, ont médité à travers les âges, à ce moment-là devient le rhéma de Dieu. Alléluia! Ça devient le rhéma de Dieu. Et Marie reçoit ce rhéma. Et elle réagit en disant, qu'il me soit fait selon le rhéma de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, cette parole s'est accomplie. Personne d'autre ne peut dire à travers les âges, « Ah, Dieu m'a parlé, je suis vierge, mais Dieu m'a dit que j'enfanterai un fils, Emmanuel, qui va sauver l'humanité. » Ça a déjà été accompli. Vous voyez, oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la parole de Dieu peut, à un certain moment, la parole Logos, devenir une parole rhéma. Elle a été dirigée vers Marie, et non pas vers toutes les filles vierges de Galilée. Elle a été dirigée vers Marie, et non pas vers toutes les filles qui vivaient en Israël, mais qui étaient vierges et fiancées. Mes amis, le rhéma est une parole particulière. Alors cherchons la communion avec le Seigneur pour que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais qu'on me mette Ésaïe 55. Nous lisons ça, et puis ensuite nous prions pour les offrandes. Alléluia. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Très rapidement, mes amis. Voilà. Comme la pluie et la neige descendent de cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi, suivez maintenant, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Alors, si tu as reçu le rhéma, remercie le Seigneur, lève-toi, agis, même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, demain tu le verras. Oh, alléluia! Il a fallu du temps pour que Marie commence à sentir la présence du Messie. Il a fallu 9 mois pour qu'enfin Marie porte le Messie dans ses bras. Ça peut attendre, ça peut prendre 5, 6 mois, 9 mois, 1 année, mais la parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Acclamons sa parole. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Merci pour ta parole. Oh, combien, Seigneur, elle est bonne, elle est merveilleuse. Tu nous appelles, Seigneur, à la connaissance de ta volonté générale pour chacun de nous. Volonté qui nous est révélée par la parole écrite de Logos. Mais tu nous appelles également, Seigneur, à développer cette connaissance de la volonté particulière pour chacune de nos vies. À recevoir des directives personnelles qui suscite en nous le rhéma. Et le rhéma qui finit par générer la foi qui déplace les montagnes. Oh, donne-nous d'être attentifs, de rester attachés à toi, jusqu'à ce que nous recevions le rhéma d'une manière ou d'une autre, que ce soit par quelqu'un, au travers des circonstances, que ce soit à partir de la parole écrite. Seigneur, que ce soit de manière audible, car tu parles aussi de cette façon. Que ce soit par un rêve ou une vision, peu importe, l'essentiel est que tu nous aides à avoir ce discernement, cette sensibilité à ta voix. Merci Jésus.